Grand Dialogue
Sigi Kafoba
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 15 octobre 2014. Bienvenue. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui vous parle du coût de l'électricité. S'il est trop élevé au Mali, voici donc les trois questions que nous devons débattre dans ce débat. Peut-on considérer que le coût de l'électricité est trop élevé au Mali? Le prix devait-il augmenter compte tenu de la crise? Le gaspillage est-il également à la base des augmentations? Nos invités pour en parler, Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, Mamadou Camara, économiste, Cheikh Amala Simpara de l'Organisation patronale des industriels et Almoubachar Aïdara, industriel de l'industrie nouvelle tannerie du Mali. Je suis Famous Asidibé, Gagny Kanté est à la technique.
Studio Tamani.
Selon le Fonds monétaire international, le secteur de l'électricité du Mali est un secteur déficitaire depuis de nombreuses années parce que les gouvernements précédents ont eu comme politique de maintenir le coût de l'électricité stable au moment où les coûts de production augmentaient. Le coût de production de l'électricité, selon le FMI, est de 180 francs CFA quand le prix moyen de kilowatt est de 85 francs CFA environ, ce qui est que 8% plus faible qu'en 2013, sans compter le degré de gaspillage au niveau des structures publiques. Alors, pour entamer donc cette première partie, peut-on considérer que le coût de l'électricité est trop élevé au Mali? Mamadou Camara, vous êtes économiste.
Plutôt Sidiki Camara.
Sidiki Camara, autant pour moi.
Ok. Moi, sur le premier point, Monsieur Sidi B, vous conviendrez avec moi qu'on n'a pas besoin de démontrer que le coût de l'électricité est trop élevé au Mali. Moi, si je dois répondre à cette question, je réponds par l'affirmatif. C'est que le coût est trop élevé pour, disons, les ménages maliens. Et ça me paraît même contre-productif quand l'État pense qu'il subventionne. Il ne subventionne pas parce qu'en réalité, l'équilibre financier de ces structures doit être revu parce que leur charge d'abord de fonctionnement ne leur permet pas de ce que je peux appeler un prix social.
Okay. Alors nous allons voir du côté des industriels. Nous avons Cheikh Amala Simpara de l'Organisation patronale des industriels. Nous savons que ce secteur a beaucoup souffert, notamment des fiscalités. Malgré la crise, les recouvrements du secteur n'ont pas failli. En plus donc de ce domaine fiscal, il est imposé aujourd'hui aux industriels cette nouvelle tarification de l'énergie. Alors, peut-on estimer aujourd'hui le coût supplémentaire imposé aux industriels? Monsieur Simpara.
Monsieur Sidibé, merci. Au nom de l'organisation que je représente ici, je remercie la radio, tous les collaborateurs, pour l'occasion qui nous est offerte. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le coût de l'électricité est élevé par rapport au pouvoir d'achat du Malien. Je ne dirais pas que c'est trop élevé, mais quand même, c'est élevé par rapport au pouvoir. Parce que quand on dit que c'est cher par rapport à quelque chose, moi je me dis par rapport au pouvoir d'achat du Malien. Voilà. Donc, ces derniers temps-ci, on a même connu une augmentation. Peut-être à l'occasion, on va en parler.
Alors, nous avons également en ligne, si tout va bien, monsieur Almoubachar Aïdara, industrie nouvelle tannerie. Monsieur Aïdara, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui si le coût de l'électricité est trop élevé par rapport aux années précédentes?
Oui, affirmatif.
Alors, comment est-ce que vous estimez cela à votre niveau?
Bon, nous estimons aujourd'hui que le coût du courant est très, très, très élevé par rapport au gain du malien et surtout en tant qu'usager et industriel. Nous avons senti une nette augmentation du coût de courant par rapport aux ménages et par rapport aux industriels. Je m'en vais vous donner un seul exemple. Moi, dans ma société qui payait 1 900 000 avant l'augmentation, je suis à la date d'aujourd'hui et au même temps de consommation à 2 900 000.
Donc 1 million supplémentaire.
Voilà. Donc vous voyez que pratiquement, j'ai eu une augmentation et au même temps de consommation. Moi, chez moi, où j'avais un compteur prépayé, avant, lorsque je payais 5 000 francs à mes... Oui, à domicile. Lorsque je paye un crédit de 5 000 francs, ça me fait 64 unités. Aujourd'hui, j'ai 35 unités par rapport à 5 000 francs.
Alors ça, c'est un domaine qu'on ne peut pas maîtriser, que les consommateurs ne comprennent toujours pas. Alors, je rappelle juste au passage que nous avons convié Énergie du Mali à ce débat, mais nous n'avons pas eu de suite favorable. Et le comité de régulation également des prix n'a pas voulu répondre à notre invitation. Et Salimata, merci beaucoup, Monsieur Haïdara. Vous restez avec nous tout au long du débat. Madame Koulibaly, Salimata Diarra, vous êtes de l'Association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, tous les invités conviennent aujourd'hui que toutes ces mesures convergent vers les consommateurs aujourd'hui. Alors, quels sont leurs déboires en matière d'électricité, Salimata?
Vous le savez, on a eu plusieurs débats sur la question ici.
Exactement.
Et les uns et les autres, à mes côtés, ont eu à reconnaître que les choses ont augmenté. Et M. Haïdara de la tannerie a reconnu la même chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au-delà de la facture que le consommateur veut payer, il va aussi devoir payer les augmentations relatives au coût élevé de l'électricité par rapport aux producteurs, aux entreprises. Donc, c'est vous dire qu'il va de soi qu'aujourd'hui, le coût de l'électricité est très cher pour le Malien.
Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui le fait que EDMSA et le comité de régulation refusent de venir au débat? Car ça fait plusieurs reports que nous constatons ici chez nous. Nous avons eu du mal à organiser ce débat, car ils n'ont pas voulu venir à ce débat. Est-ce que vous comprenez cet aspect? Est-ce qu'ils ont aussi le couteau sous la gorge?
Cela est possible, mais moi je ne le comprends pas. Quand on est responsable de ce niveau-là, on doit accepter la redevabilité. Il faut venir expliquer, il faut faire comprendre les éléments qui ont fait que les choses ont bougé au moment où le Mali vit sa plus grande crise mondiale. Donc ce n'est pas normal que la CRE ne soit pas là, parce que c'est le régulateur. Ce n'est pas normal que l'énergie du Mali ne vienne pas. S'ils ont des dossiers clairs, si les argumentaires qui leur ont permis d'aller vers l'augmentation, ils doivent pouvoir affronter le débat ici. Donc il n'y a rien à cacher en la matière.
D'accord. Alors, Monsieur Simpara, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, par rapport à l'augmentation, excusez-moi, j'ai eu à constater que le kilowattheure en 2013, aux heures de pointe, était à 98, c'est passé à 110. Donc aux heures pleines, c'était à 71, c'est passé à 75. Aux heures creuses, c'est passé de 48 à 55. Donc, au regard de ces chiffres, on peut dire que vraiment, il y a eu augmentation. Voilà.
Ok, alors nous nous tournons vers l'économiste. Aujourd'hui, tout le monde convient que ce coût n'est pas supportable par les ménages aujourd'hui. Alors, est-ce que au moment de l'augmentation, le Mali avait le choix? Car la mission du FMI était là, fallait-il aller obligatoirement vers cette augmentation, M. Camara?
Non, je ne pense pas, M. Famoussa. Vous savez, je l'ai toujours dit, gouverner, c'est prévoir. Et gérer, c'est pouvoir anticiper. Vous savez qu'il y a plusieurs leviers que l'État aurait pu jouer. D'abord, le plus grand gaspilleur, si je peux dire, d'eau et d'électricité, c'est l'État.
Nous allons en venir. Ça, c'est la troisième partie du débat.
Voilà, parce que et c'est compte tenu de tout ça, l'État se barricade toujours pour dire que l'équilibre financier de la société est en cause. Mais quand vous regardez la structure de nos sociétés, je ne suis sans faire de jaloux, Vous allez voir que la plupart de nos dirigeants des sociétés, c'est le besoin de bien paraître, entre guillemets, c'est des dépenses de prestige en réalité qu'ils veulent. Ils ne sont pas tenus par une obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens. Quand tu viens, il faut que celui qui t'a, ton mentor, que tu l'entretiennes, et ton conseiller technique qui gère ton dossier au niveau du département, il faut que lui, il ait une prévision dans mon budget, et tout ça. In fine,
le vous dernier... parlez là de la haute hiérarchie.
Oui, in fine, qui est le dernier payeur?
C'est le consommateur.
C'est le pauvre consommateur. Vous voyez, par exemple, quand vous allez prendre la facture, dans le temps, même la CRE était entretenue sur la facture des consommables. Vous allez prendre la redevance épée, éclairage public. Mais qui le paye?
Consommateur.
Je vous dis, sans trop me tromper, si jamais les deux décideurs étaient là, vous savez, si l'État paye correctement sa facture, rien que pour 3 mois seulement, il peut accorder une subvention pendant 7 ans dans la simulation. C'est pour cela que si la CRE était là, j'allais leur demander la matrice du prix qu'ils ont proposé pour l'augmentation du 1er juillet. Mmh. Et j'ai été agréablement surpris que l'autorité de régulation était même le porte-parole pour essayer de nous faire avaler leur pilule. De justifier, comme l'a dit M. Simpara, il va dire par exemple, pendant l'heure de pointe, on était à 98, on est venu à 110. Ils vont dire que c'est minime, mais ce n'est pas minime. Quand tu appliques la politique du grand nombre, ce n'est pas minime. On passe de 98, on va à 110. D'emblée déjà, on a 12 francs d'augmentation. Multiplié par le nombre de Maliens, ça fait combien par mois? Pendant les heures de creuse de l'autre côté, on est passé de 48 francs à 55 francs. Donc on a eu déjà une augmentation de 7 francs. 7 francs, ce n'est pas minime. Multiplier ça par le nombre d'abonnés, c'est ce que ça peut donner. Donc au bas mot, moi je trouverais qu'en réalité, l'augmentation était injustifiée dans le contexte dont la population a été la plus grande victime de cette crise en réalité.
Alors nous sommes à quelques secondes de la, pas à quelques minutes de la pause. Salimata Diarra, vous êtes la présidente de l'association malienne des consommateurs. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu les moyens nécessaires pour pouvoir contrôler suffisamment les compteurs prépayés Isago qui ont été proposés à la population sans commune mesure?
J'avoue que je n'ai pas eu les moyens de contrôler, mais j'ai eu des réactions des consommateurs qui estiment qu'ils n'ont pas de problème majeur. En tout cas, il faut dire la vérité. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu de plainte spécifique. La plainte que j'ai eue, c'était par rapport à Gao, où il y avait de très vieux compteurs et qu'ils ont voulu amener les prépayés. Et ceux-ci n'avaient pas du tout compris et avaient refusé d'y adhérer. Bon, puis après, ils les ont convaincus et ça a fait. Parce que c'est vrai, nous soutenons que le prix est cher, mais nous soutenons également qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraudes alimentées par les agents même de EDM. Donc il y a cet aspect également.
D'accord. Alors M. Simpara de l'Organisation patronale des industriels veut ajouter quelque chose à ça.
Oui, on a parlé de prix, ça nous préoccupe certes, mais il y a d'autres problèmes qui sont propres surtout aux industriels que je représente ici. C'est un problème de qualité, c'est un problème de disponibilité. Donc ces deux problèmes aussi nous préoccupent.
Qualité, plus. C'est-à-dire
qualité, avoir de l'électricité de qualité, des tensions qui ne bougent pas. Okay. Parce que vous savez, quand on est industriel, une fois que la qualité est mauvaise, cela entraîne les dégradations du matériel industriel, n'est-ce pas? Et cela entraîne des cas de reprise. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc la disponibilité, ça c'est par rapport aux coupures intempestives. On sait que durant quelques mois, il y a un déficit de fourniture. Donc en plus de la qualité, s'il y a un déficit de fourniture d'électricité, cela est de nature à plomber, voilà, c'est ça les industries. D'accord. Donc on aura l'occasion d'en parler. D'accord. Autant je vais parler du prix, mais je vais parler surtout merci. De qualité et de disponibilité.
Il n'y a pas de souci. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani,
Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et également Twitter et également notre site web www.studiotamani.org. Nous avons aujourd'hui comme thème de débat le coût de l'électricité et nous nous interrogeons sur la question est-il trop élevé au Mali? Ce second volet est consacré au contexte actuel. Est-ce que le prix de l'électricité devait augmenter en sachant que nous sommes dans une période de turbulence. Nos invités pour en parler, Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'Association des consommateurs du Mali, Mama Sidiki Camara, économiste, Cheikh Amala Simpara de l'Organisation patronale des industriels. Un autre industriel est avec nous par téléphone, Al-Moubachar Aïdara de l'industrie nouvelle de tannerie. Alors cette deuxième partie donc est consacrée à cette question. Le prix devait-il augmenter compte tenu de la crise? Monsieur Aïdara, vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes industriel. Est-ce que vous pensez que l'augmentation était opportune en cette période transitoire?
L'augmentation n'était vraiment pas opportune parce que vous savez que nous venons d'une crise et que la crise a affecté vraiment les industriels. Ça a engendré du chômage. Et aujourd'hui, que nous essayons de relever les défis, en fait, une augmentation des tarifs de l'électricité, ça joue encore sur l'emploi. Comme l'a dit le représentant de l'OPI, effectivement, la qualité de l'électricité que nous fournissons fait défaut. Parce que même le fait que nous avons eu une augmentation sur le tarif de courant, nous n'avons pas régulièrement le courant et nous utilisons encore des groupes électrogènes encore pour pouvoir travailler. C'est encore un plus dans la cagnotte des industriels. Maintenant, la question que vous avez posée par rapport à l'énergie et puis aux services de régulateurs qui n'ont pas voulu venir participer au débat, parce qu'ils n'ont pas de mots convaincants qui vont dire au peuple malien par rapport à l'augmentation des tarifs. Nous nous sommes dit que s'il y a augmentation des tarifs, c'est là que l'État ne doit plus subventionner. Mais la subvention de l'État, c'est aussi le contribuable malien. Donc, le peuple malien subit encore une autre augmentation qui ne vient pas directement de leur poche, parce que la subvention de l'État aussi, c'est le peuple malien. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question.
Alors juste un aperçu pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de voir ce qui se passe dans ce studio. Les deux chaises sont vides. Les invités que sont EDMSA et le comité de régulation des prix n'ont pas voulu répondre à notre invitation pour parler du coût de l'électricité. Alors je me tourne vers l'économiste Sidiki Camara. Est-ce que parmi les dossier du FMI au Mali, il y avait ce problème crucial de l'électricité. Est-ce que le FMI ne pouvait pas faire fi de cette augmentation connaissant la période de crise que traverse le Mali?
Ok, merci bien M. Sidibé. Je pense que ça va dépendre de la qualité de nos compatriotes qui avaient affaire avec les experts du FMI et de la Banque
mondiale. Mais la crise du Mali est connue de tous?
Oui, mais vous savez que elle n'est pas ignorée, elle est connue de tous et tout le monde vit cette crise aussi. Mais quand je dis ça dépend de la qualité des interlocuteurs, la plupart du temps, c'est que nos gens ont peur de négocier d'égal à égal avec ces gens, pour deux raisons. Quand vous êtes le point focal du FMI ou de la Banque mondiale, votre dernière ambition, c'est de se retrouver avec ces gens.
Un jour ou l'autre.
Ah oui.
Travailler dans ces organisations.
Oui.
Et donc vous pensez que c'est un
non,
frein?
Non, moi je le dis parce que j'ai beaucoup de compatriotes avec qui nous avons fait des études, qui en réalité.
Vous avez été tenté par
non,
cette situation?
Non, moi pas du tout. Moi, je vous le dis aussi, hein, moi mon troisième cycle a été financé à 100% par la Banque mondiale à hauteur de 20 000 dollars. Mais j'ai signé une charte. Pendant 6 ans, je ne vais pas travailler avec eux. 6 ans, je viendrai au moins servir dans mon pays. Et pendant tout ce temps, je reçois leurs propositions et tout.
Donc vous pensez que les fonctionnaires chargés de, éventuellement de faire les négociations avec ces organisations sont quelquefois influencés?
Oui, oui. Et puis je pourrais dire que, bon, ils sont la plupart, parce qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est que sûr, quand vous viendrez pour défendre les intérêts de votre pays, mais vous mettez de côté votre intérêt personnel. Et puis c'est tout, c'est des débats, c'est des négociations entre guillemets polies qui doivent se faire, parce qu'ils ne vont jamais vous imposer. C'est eux qui rentrent dans votre matrice de problèmes, de votre solution. Vous les étalez tous, ils les décortiquent. Et bon, ils disent ça, je pense que quand on fait comme ça, ça pourrait aller. Mais pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Tu m'as promis, avant la prochaine rencontre, tu vas faire cela. Je suis revenu, j'ai vu que tu n'as pas bougé de l'état. Et moi aussi, c'est que je devais avancer comme deux pas, je fais un pas seulement, en attendant que jusqu'à ce que tu fasses l'autre. Ça, c'est d'un. De deux, les institutions de Bretton Woods ne viennent pas en chirurgien. Hein? Non, ils ne viennent pas en chirurgien. Ils viennent, ils te regardent, ils te font ta prescription. C'est pareil pour un malade.
Donc, c'est des conseillers.
C'est des conseillers. Quand tu fais une prescription à un malade, tu vois qu'il est allergique au tla. Automatiquement, le médecin est obligé de revoir.
Mais il n'y avait pas que des conseils. On a vu le blocus du FMI qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il fallait attendre le dégel en septembre pour que les fonds puissent au moins être débloqués pour le Mali. Donc ça suppose qu'il y avait des sanctions à l'air.
Oui, mais pas tout à fait. Je vous rappelle un peu en arrière. Vous savez que depuis le 20 juin 2014, que la directive par rapport à l'augmentation
de l'électricité.
Est-ce qu'on était en septembre? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on était en septembre encore?
La directive, donc la menace était là.
La directive était de 20 juin. Ça veut dire 20 juin, nos dirigeants devaient avoir la capacité d'anticiper ce que nous avons vécu à partir du 1er juillet.
Alors, les industriels qui sont préoccupés par cette situation et ciblés par la mesure, est-ce que vous êtes convaincu des arguments que les autorités vous ont fournis par rapport à cette nouvelle augmentation, M. Simpara, de l'organisation patronale des industriels?
Bon, moi, ma façon de percevoir les choses, c'est que nos partenaires devaient voir les choses autrement. Quand on prend EDM sur le plan structurel, il y a de vrais problèmes. D'abord, il y a un problème de vieillissement de l'outil de production. Donc, quand l'outil de production vieillit, c'est sûr et certain que
ça joue sur la production.
Deuxièmement, il y a un problème de transport de l'électricité. Il y a beaucoup de pertes à ce niveau. Ça, c'est le problème interne à EDM. Je crois que pour amoindrir les coûts, nos partenaires devaient s'attaquer à ce problème. Donc, le problème
de vieillissement de certaines installations,
c'est ça, et le transport de l'électricité. Il y a un problème de recouvrement. Il a été question de cela. On devait s'attaquer à cela. Et EDM s'approvisionne sur le marché international en carburant. Donc vraiment, je pense que voilà, il y a beaucoup de leviers sur lesquels nos partenaires devaient jouer plutôt que de s'attaquer à la limite aux maillons faibles qui sont les consommateurs pour dire c'est là-bas qu'on va procéder à une augmentation. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Qu'est-ce qui dégrade la situation de EDM? Ce sont ces quelques problèmes que je viens d'évoquer. Donc il faut apporter une solution corrective. C'est comme, je vais imaginer, hein, vous avez un récipient en bordure du puits, vous voulez le remplir pendant qu'il est troué. Il faut chercher d'abord à colmater et ensuite à remplir le récipient. C'est le cas de EDM. Donc nos partenaires financiers doivent s'attaquer au problème de EDM à l'interne pour que nous puissions trouver quelques soulagements.
Alors, Monsieur Aïdara Al-Moubachar Aïdara, vous êtes de l'industrie nouvelle de tannerie, société qui traite le cuir à la zone industrielle. Alors, Monsieur Aïdara, c'est bien ça, si je ne m'abuse, hein?
Oui, c'est plutôt l'industrie malienne des tanneries, on est la nouvelle tannerie. L'industrie malienne des tanneries, oui.
Ok. Alors, vous êtes industriel. Aujourd'hui, le FMI reproche au Mali de produire l'énergie à perte. Est-ce que vous êtes d'avis avec les experts qui disent que voilà, le Mali, les experts maliens n'ont pas pu négocier de la meilleure façon qu'il soit?
Oui, parce que la négociation par rapport aux institutions internationales par rapport à l'électricité. C'est vrai, nous avons fait le constat que aujourd'hui, le Mali étant un pays enclavé, nous ne produisons pas de pétrole, c'est vrai, mais par rapport à la voix du peuple malien, comment nous pouvons gérer une augmentation tarifaire d'électricité pour des industriels qui, tout ce qu'ils produisent, c'est sur la base des produits locaux maliens qu'ils transforment pour l'exporter. Nous nous sommes dit que si l'électricité, parce que c'est des investisseurs qui viennent, l'électricité devient plus chère, les 20 investisseurs-là vont fermer les portes et que nous serons encore sous la main des autorités maliennes. Donc, ce que l'État doit faire, c'est de voir comment avoir, effectivement, pour les industriels, comme ils le disent, qu'il faut des tarifs sociaux, qu'il faut aussi des tarifs particuliers pour les industriels qui, au moins, transforment les produits locaux pour l'exportation. Parce que la richesse d'un pays, c'est l'exportation, et l'importation. Tout ce que nous transformons ici, nous l'exportons.
Alors, juste une précision, M. Haïdara, est-ce que cela se ressent sur le quotidien de ceux que vous côtoyez tous les jours? Admettons, par exemple, si vous achetez le cuir à un prix, est-ce que avec l'augmentation de l'électricité, vous êtes obligé de baisser le prix ou bien de céder plus cher?
Avec l'augmentation, parce que tout ce que nous produisons, comme je l'ai dit, nous l'exportons. Lorsque nous exportons, nous ne pouvons pas augmenter le prix parce que le coût de l'électricité a augmenté chez nous. Nous avons des contrats avec nos partenaires et ces contrats restent figés, quel que soit le coût de l'électricité. C'est pour ça que nous pouvons vendre avec le coût de l'électricité, nous vendons à perte.
À perte.
Alors,
mais merci beaucoup pour ces précisions, M. Haïdara. Vous restez avec nous. Madame Koulibaly Salimata Diarra, vous êtes la présidente de l'Association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, est-ce que les consommateurs ont les moyens de payer l'électricité plus chère?
Vous le savez, vous êtes consommateur, M. Sidibé. Et avec quelle pression, je ne sais pas, c'est douloureux, quoi. Et les gens accèdent à l'électricité. Ils l'ont dit avant moi, la qualité n'y est pas. On a toujours les coupures, hein? On a toujours des problèmes. Donc malgré les efforts que les consommateurs peuvent faire, la qualité ne répond pas aux attentes. Donc les gens en plus, vous connaissez la question des salaires, hein? Le coût de la vie pour les populations maliennes. Donc c'est vraiment très très dur pour les populations du Mali, la prise en charge de leurs factures d'électricité.
Alors nous allons donc observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie du débat qui sera consacrée au gaspillage de l'électricité dans les structures publiques.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Oui, Studio Tamani, c'est aussi les radios partenaires, une vingtaine dans tout le pays et trois à Bamako, Radio Guintan, Benkan et Liberté, avec des correspondants également, une vingtaine également dans le Mali tout entier. Alors, la troisième partie donc de ce débat qui est consacrée à l'augmentation du prix de l'électricité au Mali. Nous avons comme invité pour débattre de ce thème Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'association du président
présidente de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA, Sidiki Camara, économiste, Cheikh Amala Sempara de l'organisation patronale des industriels et Almou Bachara Aïdara de l'industrie de tannerie. Monsieur Aïdara est industriel, alors donc cette troisième partie est consacrée au gaspillage de l'électricité dans les structures publiques. Le gaspillage également est-il à la base des augmentations, Sidiki Camara, économiste?
Ok, merci Famoussa. Moi, je ne trouve pas que ça soit le gaspillage qui pourrait être à la base, parce que quand vous voyez que ce gaspillage ne saurait être visible que c'est plutôt au niveau de Bamako, et peut-être que dans certaines garnisons aussi, si, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom.
Hein. Certaines, vous dites?
Ah oui, certaines garnisons.
Pas toutes?
Non, j'ai dit certaines garnisons, parce qu'il y en a certains commandants de zone qui prennent des dispositions pour dire à certains de leurs éléments que c'est la population qui vous entretient. Donc, prenez soin de ce qu'elle vous offre.
Alors, juste une précision, une parenthèse pour matérialiser, sinon schématiser ce gaspillage dans certaines garnisons. Quand la tête du robinet ne marche pas, on fait des canalisations jusqu'au verger. Alors que la tête du robinet ne coûte que parfois 1000 francs.
Vous savez, tout est une question de sentiment de patriotisme. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas pitié du bien public n'aura pas pitié de son propre bien. Parce que quand tu te mets en tête que l'État c'est moi, et moi c'est l'État.
Peut-on chiffrer aujourd'hui ce gaspillage?
Bon an, mal an, comme l'a dit M. Sempara, on a l'impression que les difficultés de l'énergie sont plutôt conjoncturelles. Mais moi je maintiens toujours... Elles sont structurelles.
Elles sont structurelles.
Parce que la conjoncture pendant la période d'augmentation du brut et tout ça, le Mali a une caisse de péréquation qui fait que ça doit nous permettre, lorsque ça baisse, on fait des provisions de côté. Lorsque ça augmente, on prend les réserves qu'on a mises pour essayer de compenser. Ça, c'est un langage simplifié pour qu'on puisse comprendre. Deuxièmement, ils ont parlé des difficultés de l'équilibre financier. Mais ce n'est pas compliqué. On ne peut pas dépenser plus qu'on ne gagne. Si la société vit au-dessus de ses moyens, c'est tout à fait logique. Mais ce n'est pas aux pauvres contribuables de payer. Mmh. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, je vous ai parlé tantôt. Vous savez que le plus grand gaspilleur, c'est qui? C'est l'État. Et le plus mauvais payeur aussi,
c'est l'État.
C'est l'État.
Et c'est l'État qui maintient les prix aussi.
Et le plus grand arbitre, c'est l'État.
Juge est parti.
Voilà. Je vous donne un seul exemple. Vous voyez les structures d'État, quand vous avez trois factures, la moindre des choses, même si c'est ta maman qui est malade, ils vont venir couper. Tu vas prendre une structure d'État, je te prends un ministère. Hein, il y a juste deux jours, quelque chose où j'avais eu le dossier d'un ministère. Ils avaient 7 milliards d'arriérés. 7 milliards d'arriérés, je vous dis, 7 milliards
d'arriérés. Une structure publique.
Une structure publique, ça c'est un seul département.
EDM.
EDM. Rien que... Non, EDM. La redevance, ça n'en parle même pas. Mm. Et là, l'impayé, c'était quoi? Ça, c'était d'abord l'eau. Vous savez qu'on utilise plus d'électricité que l'eau. Ça, c'était un seul département ministériel. Multiplier ces impayés par le nombre de 31 ministères départements, au bas mot même.
Sans compter les structures publiques.
Laissez les déconcentrer, les rattacher, tout ça. Affectez-les seulement 1 milliard, ça fait combien? On leur affecte seulement 1 milliard d'impayés. Au bas mot, ça fait 31 milliards. Vous pensez, quand l'État fait violence sur lui-même pour dire, écoutez, M. Sempara, en tant que EDM, moi, mes structures vous doivent 31 milliards. Apportez-moi un bon plan d'investissement. On va dégager les 31 milliards. Vous pensez qu'on ne peut pas vendre l'électricité même à 5 francs?
Alors, y a-t-il d'autres trous de gaspillage, M. Sempara, vous qui êtes de l'organisation patronale des industriels, et vous avez commencé à en débattre. Je vous ai dit d'attendre cette troisième partie. Eh bien, nous sommes à cette troisième partie pour parler de gaspillage. Est-ce que, en plus des secteurs énumérés par Sidiki Camara tout à l'heure, économiste, vous trouvez qu'il y a d'autres secteurs de gaspillage de l'électricité?
Oui, bon, le problème de gaspillage se pose à tous les niveaux, hein, pratiquement. Imaginez une porte qui ferme mal. si la porte est mal conçue, ben, la fraîcheur s'en va. On parle de gaspillage. Et le compresseur de la machine tourne sans arrêt. Cela entraîne des augmentations. Bon, c'est valable pour le local industriel aussi. C'est vrai que si ce n'est pas étanche, il est évident que
il y a des pertes.
Et il a eu l'occasion de le dire au niveau de l'administration, que ce soit au niveau climatiseur, au niveau structure d'éclairage, il est évident qu'il y a des pertes. Donc vraiment, comme on l'a dit, il faut qu'on arrive à une efficacité énergétique, consommer avec modération, consommer avec civisme, parce que rien ne résiste au gaspillage. Rien. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Alors juste une précision, nous ne rasons pas la tête du client en son absence car nous avons envoyé des invitations à EDMSA et également au comité de régulation. Malheureusement, les deux structures n'ont pas voulu répondre à notre invitation. Alors il y a un autre secteur dont on parle peu, c'est le secteur de la fraude de l'électricité. Salimata, Madame Koulibaly Salimata Diarra, vous êtes la présidente de l'ASCOMA. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette fraude de l'électricité?
Bon, la fraude de l'électricité est aussi une des raisons qui font que l'EDM aussi est dans cet état. Parce que c'est avec la complicité des agents qui proposent, hein, je le dis haut et fort, aux consommateurs de passer par cette voie-là pour réduire leur consommation. Puisque ces gens ont des moyens limités, donc très simplement, hein, naïvement, si je peux dire, ils adhèrent à ça. Et c'est courant partout. Moi, je l'ai dit la dernière fois sur vos antennes, à côté de moi, hein, des propositions sont faites aux gens pour aller dans ce sens-là. Ça, c'est pour ça que nous, on dit, il faut... parce qu'il y a un constat, c'est qu'à des moments précis, la Banque mondiale, qui relève du Fonds monétaire, je pense que c'est les institutions qui vont ensemble, fait des efforts par rapport à l'équipement, des appuis à EDMSA. C'est arrivé au moins deux fois, j'ai suivi ça. Mais tous les ans, on ne voit aucun effet de ces efforts consentis au niveau de EDM. Donc il y a un problème de gouvernance de gestion qui se pose au niveau de EDM. Au niveau de EDM en son sein, au niveau des agents qui sont sur le terrain. C'est pour ça que nous répétons qu'il nous faut absolument, il ne faut pas l'éviter, il nous faut aller au fond des choses, c'est-à-dire faire l'audit. L'audit de manière très sérieuse avec des gens qui ont les compétences requises. Moi, je ne parle même pas de gens extérieurs. Moi, je pense que nous avons des compétences nationales qui sont à même de faire l'audit de EDMSA. J'ai vu, depuis tout ce temps qu'on est là, avec le CDI, ce n'est pas pour faire leur éloge, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de travers, mais je sais que les audits que le CDI a eu à faire, que moi j'ai vu, sont des audits très sérieux et qui orientent parfaitement la manière de gérer au mieux. Il y a aussi des bureaux d'études dont j'ai vu des études parce que je suis au niveau de certains CA. On a fait les audits, mais on était étonnés de ce qui en est sorti. Les compétences existent, que les Maliens soient mis à contribution pour faire en sorte que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe exactement à EDMSA. Il faut que EDMSA comprenne. Je parle de EDMSA et de tous ceux qui sont responsables de cet élément-là, qu'ils comprennent que c'est le Mali et que c'est le Mali qui doit être par-dessus tout. Ce n'est pas un langage à tenir, un comportement. Il faut aller aujourd'hui au point où nous en sommes. Ils sont sous pression parce qu'ils gèrent mal. Ils sont sous pression. Le Fonds monétaire fait ce qu'il veut au moment où il veut, impose comme il veut, parce qu'il y a des choses qui lui permettent de le faire. Il faut sortir de ces engrenages-là. Il faut accepter de faire l'audit à fond, de se remettre en cause et de se relever. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, Monsieur Haïdara Al-Moubachar Haïdara, vous êtes industriel. Aujourd'hui, les industriels sont indexés par cette fraude. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur cet état de fait et dont souffre EDMSA?
On accuse les industriels de fraude. Je n'en connais pas parce que moi je ne fraude pas. Je paie régulièrement ma facture. Mais quand vous avez parlé de gaspillage, effectivement, l'État n'est pas le seul gaspillage. L'énergie même fait partie des structures qui est un gaspillage.
En quoi faisant?
Parce que, oui, en quoi faisant?
la fraude qui s'est faite, c'est en complicité avec les agents de l'énergie. Nous savons ce qui se passe par rapport à ça. Lorsque il y a des branchements illicites qui se font, qui les font, c'est à travers les agents de l'énergie. Donc tout ça là, c'est un manque à gagner que l'énergie, une fois nous avons rencontré, pour la petite histoire, nous avons rencontré le ministre de l'énergie en tant que centrale, nous avons dit que les problèmes de l'énergie, il y a des problèmes internes. Ils ont reconnu qu'il y a des problèmes internes. Mais si nous ne parviennent pas à régler ces problèmes internes, ce n'est pas le peuple malien qui va subir. Maintenant, quant à l'État, c'est vrai, mes prédécesseurs l'ont dit, par rapport au gaspillage, c'est fait au niveau des structures de l'État. C'est l'État qui devrait faire de sorte que tout ce qui se fait comme mauvaise gestion au niveau de l'électricité, c'est l'État qui devrait être le garant pour éviter à ce que la consommation qui se fasse ne se fait pas d'une manière régulière. C'est pour ça aujourd'hui, si on parvient à régler ces problèmes, je pense bien que la solution serait trouvée.
Merci.
Les industriels, je n'en connais pas, moi, quand même, une industrie qui a été prise en flagrant délit comme fraudeur et qui n'a pas été pénalisée. Mais moi, en ce qui me concerne, je paie régulièrement ma facture et je le paye le lendemain ou même la dépose.
Vous êtes un bon citoyen.
Parce que je sais que sans l'électricité, je ne pourrais pas franchir.
D'accord. Alors, nous allons franchir un cap dans ce débat. C'est les énergies renouvelables. Donc, les solutions, le Mali a-t-il les moyens d'aller au-delà de ce qui est fait en matière d'énergie renouvelable aujourd'hui? On demande cette question à monsieur l'économiste.
Voilà. Mais avant d'arriver, d'abord, je voudrais revenir un peu sur d'abord le gaspillage, comme l'a dit, avec surtout la fraude. C'est vrai, l'État n'est pas le seul gaspilleur, mais vous savez que le réflexe, vous, quand vous vous rendez compte que votre facture passe de 3 000 francs à 5 000 francs, la première des choses, c'est de gronder tous les membres de la famille. Ça, c'est bien, mais tel n'est pas le cas de l'État. C'est pareil aussi pour un industriel. Quand tu vois qu'il y a une ampoule qu'on a oublié d'éteindre ou bien il y a un climatiseur, la plupart du temps, le réflexe de l'entrepreneur, c'est le lendemain, c'est d'interpeller le responsable. Bref, quant à la fraude aussi, vous savez que ça nous envoie aussi à un dicton d'un économiste qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Parce que plus la pression est forte, plus vous incitez les gens à la fraude. Je m'en vais, vous prenez la pression sur la consommation de l'électricité.
Nous n'avons plus de temps.
Non, mais moi, c'était juste pour décanter cette situation. Vous savez que la TVA sur l'eau et l'électricité, ça fait 18%. Et la seule manière que l'État pouvait adoucir, entre guillemets, le cœur meurtri des contribuables, c'était de jouer sur ce levier pendant cette période de transition. On enlève la pression, la TVA, de 18% à 2,5%.
30 secondes pour chacun, les énergies renouvelables, éventuellement les solutions. Monsieur Simpara, vous êtes de l'Organisation patronale des industriels.
Bon, c'est une voie à explorer, mais il ne faut pas s'attendre à des solutions miracles en matière de production d'énergie. Autant la source en soi est disponible, l'éolien, le solaire, mais les investissements restent excessivement lourd, cher. Donc, il faut faire des études, il faut qu'on arrête de colmater, il faut se planifier, il faut aller droit au but et puis mettre la boussole pour qu'on soit mieux orienté.
Merci beaucoup. Monsieur Haïdara, les solutions. 30 secondes. Alors, malheureusement, monsieur Haïdara, nous avons des problèmes de téléphone et cela m'arrange, madame, car nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA.
Je reviens, je l'ai dit tantôt, je reviens là-dessus, j'en suis convaincu, il nous faut développer l'interdépendance au niveau sous-régional, à savoir l'interconnexion par rapport à ceux qui en ont suffisamment, tels que le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est connu au Mali, je ne sais pas pourquoi ça tarde à s'installer correctement pour les consommateurs. Ça, c'est de deux. Le passage à l'énergie, aux énergies renouvelables est obligatoire. On a des dons naturels de Dieu, nous devons faire en sorte, oui, le soleil, nous devons faire en sorte de les exploiter au maximum pour la consommation quotidienne des consommateurs, des familles. Mmh. Et maintenant, pour les industriels, là, c'est des moyens. Il l'a dit, il y a de gros investissements à faire. Voilà, ça, c'est à ce niveau qu'il faut répartir les choses. Et c'est élémentaire. Mmh. De mon point de vue, je ne suis pas économiste du tout.
Merci beaucoup, voilà. Madame. Merci à vous autres. Nous sommes donc au terme de cette émission qui prend donc fin. Nous sommes, nous avons débattu de trois thèmes. Les invités, Madame Koulimaly Salimata Diarra de l'Association malienne des consommateurs, Mamadou Essiliki Kamara, il est économiste, Cheikh Amala Simpara de l'Organisation patronale des industriels et Almou Bachar Aïdara, industriel. Je suis Famoussa Sidibé, Gagnin Kanté et Piting Diarra étaient à la technique. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.